d'ailleurs de nouveau formellement des conseillers lundi à leur ressortir.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Sporama, votre émission qui parle de sport tous les lundis sur VOA Afrique. Élise Mpati pour vous la présenter. Et comme d'habitude, je serai avec mes consultants. Direction Kinshasa pour retrouver Valdo Simbo Yamba Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élise et bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique. Heureux de vous retrouver.
Amine Birouk est à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élise, bonsoir à tous.
Amédine Sy est lui à Dakar au Sénégal. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis dans ce studio avec moi, on ne le présente plus, c'est bien Lawal Dine Kosugu. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir, bonsoir auditeurs de VOA Afrique.
Ce soir, nous allons parler de la succession de Kérésine Sechi à la tête de la Fédération algérienne de football, pendant qu'au Tchad, la FIFA suspend la Fédération de football jusqu'à nouvel ordre. Et puis, on connaît toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. Bienvenue à tous. La lumière doit encore être faite autour du match Sierra Leone-Bénin, dernière rencontre des qualifications pour la CAN 2022. Après la polémique autour du match non joué le 30 mars dernier, les cinq internationaux béninois qui avaient été testés positifs au coronavirus à Freetown en regagnant la France ont tous été testés négatifs par le club respectif. Khaled Adenon à Avranches, club de 3e division en France, le capitaine des Écureuils n'était pas dans le groupe qui a joué à Bastia. Par contre, Saint-Unien Alagbe et Steve Mouni ont joué avec le club Dijon et Brest en Ligue 1, tout comme Cédric Moutondji et Jodel Dessou avec Clermont en Ligue 2. Au regard de cette avalanche de tests négatifs, on comprend bien que les autorités sierra-léonaises ont triché, ce qui donne d'éléments suffisants à la Fédération béninoise de football pour récuser la décision de la CAF et réclamer la victoire. On écoute justement le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki.
En réalité, ces tests n'ont jamais connu de résultats parce que la partie béninoise n'a jamais reçu de résultats jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est une tricherie, une tentative de tricherie, faux et usage du faux. On nous a tout simplement empêchés de jouer. Et entre-temps, la CAF a reporté le match pour les journées FIFA de juin 2021. Nous, à notre niveau, nous ne demandons qu'à la FIFA que justice soit faite en donnant marche gagnée au Bénin sur tapis vert et en sanctionnant la Sierra Leone pour tricherie et ceci dans le respect des règlements de la compétition.
Alors, Amine Birouk, 5 joueurs testés négatifs, dont au moins 3 qui ont pu jouer, le tout seulement 4 jours après la polémique de Freetown. Les accusations de supercherie côté Sierra Leonais semblent se confirmer au regard de cette avalanche de tests négatifs.
Le moins que l'on puisse dire, Élisée, c'est que ce feuilleton entre la Sierra Leone et le Bénin connaît de multiples rebondissements. Le dernier en date, c'est les tests des joueurs qui ont été positifs selon les autorités sanitaires sierra-léonaises et qui se sont avérés négatifs lors des matchs qu'ils ont disputés dans le championnat de France. Une enquête approfondie de la CAF s'impose et si jamais les sierra-léonais sont coupables de falsification, il faudra des sanctions. Aujourd'hui, a priori, les Béninois ont fait preuve de beaucoup de bonne foi et ils ne devraient pas être pénalisés davantage, y compris en disputant un match couperé à Freetown au mois de juin, en pleine période de fin de saison et en pleine période éliminatoire de la Coupe du Monde.
Lawal, les Béninois illustrés convaincus d'une supercherie ont désormais des moyens de faire recours contre la décision de la CAF.
Oui, ils doivent faire recours parce que il est important de décourager certains actes malveillants. Ce que les Sierra Leonais ont fait était carrément honteux parce qu'on ne peut pas pousser l'ignominie jusqu'à ce niveau-là parce qu'on craint de perdre un match. On déclare comme ça sur un coup de tête au grand mépris des protocoles, au grand mépris de tout ce qui doit être fait. On vient présenter des feuilles comme ça alors que les tests sont présentés de façon confidentielle et remis à chaque joueur. Vous venez, vous présentez des noms sur des feuilles et vous dites que ceux-là sont testés positifs. À combien de temps du match? À une heure, les gens étaient déjà au stade. Il faut comprendre qu'il y a eu volonté de ne pas respecter le protocole. La CAF en est bien saisie, en est bien consciente. Les gens qui étaient sur le terrain savaient que ça...
Elle est consciente, mais elle s'est précipitée pour donner un verdict.
parce qu'aujourd'hui, la décision de la CAF était peut-être le jour où on a pris la décision, c'était pour calmer les esprits et faire les enquêtes. La CAF a eu assez d'éléments maintenant pour pouvoir trancher en faveur des Béninois, il faut oser le dire, et sanctionner pour 2 ou 3 cannes la Sierra Leone pour tricherie grave, et portant en torse à l'éthique et à la morale au niveau du football.
Valdo, pendant ce temps, la Fédération Congolaise de Football, association, veut remplacer Christian Nsengui, qui n'a pas pu qualifier les Léopards pour la CAN, et des noms circulent déjà, dont Marc Wimot, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Et c'est en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde, hein, Lisée, que plusieurs noms des techniciens sont cités pour ainsi prendre les commandes de la sélection première de la RDC. Les noms de l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien dit, Marc Wimot, tout comme Hervé Renard, est également cité. Sébastien Minier, qui a été aux côtés de Claude Leroy, alors sélectionneur de la RDC, serait d'ailleurs lui en pourparlers très avancé avec la FECOFA. Les besoins étant réels, l'employeur, qui est le gouvernement congolais, attend des propositions concrètes de la part de son conseiller en cette matière, qui n'est rien d'autre que la FECOFA. Les deux parties doivent cependant se mettre d'accord sur la question des salaires, l'un des points majeurs qui pourrait ne pas faciliter les choses. Faute des moyens à disponibiliser à la hauteur des exigences des entraîneurs d'un certain niveau, la RDC s'était contentée de l'adjoint Florent Ibengué début 2015 avec un salaire estimé à 18 000 euros. L'objectif étant celui de qualifier les Léopards à la prochaine Coupe du Monde, il faudra donc au préalable vider la question liée au salaire.
À Médine, la FECOFA veut jouer la carte étrangère, surtout européenne. Et pourtant, des pays comme l'Algérie et le Sénégal réussissent bien avec des entraîneurs locaux.
Tout à fait, Élisée, c'est le cas de Belmadi qui a offert à l'Algérie son deuxième titre continental en 2019 en Égypte après celui remporté en 1990. Il y a eu également le cas de Aliou Cissé. Aliou Cissé a réussi à amener le Sénégal en finale en 2019 après 17 ans de disette. Il a aussi réussi à faire du Sénégal la première nation africaine au niveau du classement FIFA depuis 2018, c'est-à-dire un an après son arrivée à la tête de cette équipe. Mais il est toujours contesté, je ne sais pas pourquoi les gens sont contre l'expertise locale, mais l'essentiel pour un entraîneur, c'est d'avoir de bons résultats. Pour le cas du Congo, je pense que les responsables de la fédération congolaise vont bien étudier les dossiers de candidature pour ne pas porter le choix sur les soi-disant sorciers blancs, car comme on le sait, la majeure partie de ces techniciens blancs ne sont des sorciers blancs que de nom Élisée.
Amine, au Maroc, Vahid Halilhodžić est bien conforté à sa place à l'entendre lors de la conférence de presse qu'il a animée jeudi.
Vahid Halilhodžić a cherché à clarifier sa stratégie de travail, il a cherché à informer, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines de ses déclarations n'ont pas eu d'écho favorable lors de cette conférence de presse dans l'opinion publique marocaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fragilisé davantage sa position auprès de la Vox Populi, peut-être pas auprès de ses dirigeants. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est attendu au tournant. Et les éliminatoires de la Coupe du Monde qui démarrent au début du mois de juin, avec notamment un premier match à domicile face au Soudan, devraient soit le conforter dans ses options, soit le fragiliser davantage. Il s'est exprimé, mais son français approximatif n'a peut-être pas été suffisamment compris par le parterre de journalistes présents et par ceux qui ont suivi cette conférence de presse devant la télévision ou sur les ondes de la radio. Et ce qui est certain, c'est que ça a été un peu confus. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, il a besoin de convaincre, et certainement pas par le verbe, mais par les actes.
On reste avec vous, Amine, pour savoir qui succédera à Kérédine Séchi. Arrivé au terme de son mandat et plombé par un conflit avec le ministère des Sports, le président de la Fédération algérienne de football ne briguera pas sa propre succession à l'occasion de l'Assemblée élective programmée le 15 avril. Pour l'heure, des noms circulent déjà.
Il y a eu quelques velléités de candidature dans cette élection ou dans cette Assemblée générale de la Fédération algérienne de football. On a parlé de Mohamed Moro, actuel président d'Oran, d'Amar Behloul, ex-vice-président de la Fédération algérienne, c'était le codicier de Kherdine Zetchi, mais visiblement, le pouvoir en place a préféré Sharaf Din Amara, l'actuel président de Belouizdad. Ce dirigeant a vu sa candidature validée par les autorités algériennes et il devrait sans nul doute succéder à Kherdine Zetchi, qui aura laissé un bilan mitigé avec une équipe nationale championne d'Afrique, certes en 2019, une sélection des Fennecs aujourd'hui réputée pour être la numéro 1 sur notre continent. Et puis, beaucoup de chantiers qui n'ont pas été sérieusement entrepris. Une refonte du championnat, de la professionnalisation en Algérie, le problème des infrastructures, le problème de la corruption, de l'arbitrage. Autant dire que ces points noirs ont peut-être empêché Kherdin Zetchi d'opter un deuxième mandat, puisque les autorités en place ont préféré l'écarter d'emblée pour promouvoir une nouvelle candidature.
On prend la direction du Tchad pour dire que le football pêchait les ingérences de son gouvernement. Après les sanctions de la Confédération africaine de football, la FIFA a annoncé qu'elle suspend la Fédération tchadienne de football jusqu'à nouvel ordre. Valdo, la suspension a été motivée par les récentes décisions des autorités gouvernementales tchadiennes de retirer définitivement les pouvoirs délégués à la fédération.
Élisez, la position de la FIFA sur le cas du Tchad semble bien jouer le jeu des autorités tchadiennes qui, par retrait des délégations de pouvoir à la fédération, lui ont déjà interdit d'organiser une quelconque compétition ou encore une réunion au niveau national et de ne prendre part au nom du Tchad à aucun événement à l'échelle internationale. Et la FIFA, elle, vient encore renforcer sa décision avec cette sanction qui a déjà effet sur le football tchadien. Je pense que la FIFA et la CAF ont intérêt à prendre connaissance des raisons à la base du retrait de la délégation du pouvoir du gouvernement tchadien à sa fédération. L'on parlerait du refus de la fédération de dialoguer avec le gouvernement en Afrique. Les sélections nationales sont prises en charge par les gouvernements. Combien plus forte raison dialoguer avec ces derniers devrait être le cadet des soucis. Et la solution à ces cas précis doit en principe venir de la fédération tchadienne qui doit s'ouvrir au dialogue tel qu'il lui est demandé par son gouvernement.
Ahmedine, même si les SAO sont hors course pour la CAN et les éliminatoires au Mondial 2022, le football local va subir.
Tout à fait, Élisée, le Tchad est en train de payer très cher les ingérences de son gouvernement, mais je trouve injuste la situation de ce pays par la FIFA, Élisée, car on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, car quand les responsables de la FIFA ont besoin des voix de ces pays lors des élections, ils viennent voir les chefs d'État de ces pays, hein, parce pour qu'ils donnent des consignes de vote. En ce moment, ils ne parlent pas des gérances. Mais quand ça ne les arrange pas, ils parlent des gérances. C'est vraiment dommage, car pour le moment, c'est le football tchadien. C'est vrai qu'ils sont éliminés à la CAN et à la Coupe du Monde, mais il y a au niveau local les footballeurs qui sont là-bas, qui ne peuvent pas compétir sur le plan international. C'est vraiment dommage, c'est injuste. Moi, je trouve ça injuste. Je le dis, je persiste, c'est anormal, Élisée.
Lawal, et comme toujours, la suspension sera levée dès que les décisions gouvernementales en question auront été abrogées.
Oui, malheureusement, Élisée, c'est ce à quoi on a l'habitude d'assister en Afrique. Vous ne verrez pas ces ingérences-là sur les autres continents. Mais moi, je voudrais d'abord aller chercher à comprendre ce qui a motivé le gouvernement à arracher les pouvoirs délégués à la fédération. Et si la fédération jouait pleinement son rôle comme elle devrait le jouer, est-ce que le gouvernement... Il y a une crise interne. Les gens, c'est toujours c'est cette lutte d'intérêt, la lutte de leadership. Et à un moment donné, pour éviter tout problème, on retire les droits. C'est mon point de vue, on retire les droits, quitte à la FIFA de venir suspendre un pays ou ne pas suspendre. Mais la FIFA n'a pas réussi, par exemple, à gérer le cas Côte d'Ivoire, qui est encore là. On n'a pas suspendu la Fédération Ivoirienne de football. Alors qu'il y a un problème latent qui est là.
C'est un problème plus grave que plus celui grave du Tchad.
Que celui du Tchad. On n'a pas suspendu la Fédération Ivoirienne de football. Donc, il y a comme un méli-mélo qui s'observe et on suspend. Qui on veut, qui a d'intérêt, on ne les suspend pas. C'est triste pour le foot africain et c'est en Afrique qu'on a toujours ces petits soucis. Et l'autre chose, quand les gouvernements financent
les équipes
nationales, souffrez qu'ils puissent, ce n'est pas l'idéal, mais souffrez qu'ils puissent siffler la fin de la récréation quand ça ne va pas à l'interne. On a vu des crises.
D'ailleurs, une fédération ne peut pas fonctionner sans son gouvernement.
Maintenant, la FIFA, au nom du droit de non-ingérence et tout le reste, vient dicter sa loi au gouvernement. Ce qui.
Ahmedine l'a dit, quand la FIFA a besoin de foot pour faire élire un candidat, elle se rapproche auprès des gouvernants.
On circule chez les chefs de gouvernement. Parce que, au-delà de tout, c'est une question interne à chaque pays. On a vu des crises ailleurs. Maintenant, que la FIFA ait suspendu le gouvernement, l'équipe tchadienne, c'est son droit le plus absolu. Que les Tchadiennes puissent faire appel de cette décision de la FIFA, c'est leur droit également aussi. Et le TAS va forcément dire le droit et rétablir les uns et les autres dans leur droit.
On enchaîne avec les interclubs de la CAF. Plus que deux journées et on connaîtra les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. On jouait hier la quatrième journée des phases de poule. Amine, tout bien pour le Raja, presque qualifié. Par contre, le tenant du titre, la Renaissance de Berkane, piétine une fois encore et se met en difficulté.
Avec du panache, de la rigueur, un esprit de sacrifice, l'équipe du Raja a réussi à ramener une précieuse victoire du Caire face aux Pyramides, ce 3-0. Des réalisations qui se sont concrétisées à deux reprises sur coup de pied arrêté grâce aux Congolais Ngoma et Malongo. Puis sur un contre-éclair signé Rahimi en fin de deuxième mi-temps, le Raja a réussi un sans-faute lors de son parcours avec 4 matchs et 4 victoires. Il compose ainsi son ticket pour les quarts de finale. En revanche, stand-by dans la situation de la Renaissance sportive de Berkane qui a réussi à ramener un match nul d'Algérie face à la GSK 0-0. La double confrontation directe entre Marocains et Algériens s'est soldée donc par 2 scores vierges et nuls lors d'une seule et même semaine. Il va falloir que Berkane, tenant du titre, puisse réaliser un sans-faute lors de ses 2 prochaines sorties, que ce soit en Tanzanie face à Napsa Stars et surtout lors de la dernière rencontre qu'il opposera à Berkane face aux Camerounais de Coton Sport. Autant dire que les tenants du titre ont du pain sur la planche.
Alors Amédine, belle opération pour Djaraf. Le club d'Akawa, une fois encore vainqueur de Salitas, dans un match délocalisé à Porto-Novo au Bénin, prend la tête du groupe C.
Tout à fait, Élysée, le Djaraf a réussi une belle affaire en s'imposant une nouvelle fois face à Salitas du Burkina Faso à Porto-Novo. Les points de Chagui se sont imposés sur le score 2-0 grâce à un but de Youssou Faye. Avec cette victoire, le club sénégalais s'empare du fauteuil de leader du groupe C au nez et à la barbe des 2 clubs tunisiens. En effet, le Djaraf compte désormais 7 points contre 6 pour le club soufakien et 5 pour l'étoile sportive du Sahel, Élysée. Il faut dire, Élysée, que le Djaraf a bien entamé la première journée des phases retour, c'est-à-dire la 4e journée. Maintenant, il faudra confirmer lors des 2 derniers matchs pour pouvoir décrocher une qualification historique, Élysée, une mission difficile, mais pas impossible pour le Djaraf de Dakar, Élysée.
Et en attendant de connaître le top 8 de la Coupe CAF, la Ligue des Champions a déjà livré la liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale. Il restait 3 tickets à prendre et Amine Birouk. Ce sera finalement les Sud-Africains du Kaizer Chiefs qui vont accompagner les Marocains du Wydad de Casablanca dans la poule C.
Le goal average particulier a souri à cette équipe sud-africaine de Kaizer Chiefs qui a réussi un redressement de situation très spectaculaire lors des 2 dernières rencontres. Contre le Wydad la semaine dernière avec cette victoire 1-0 et surtout contre Roya Conakry, ce nul 2 buts partout les qualifie pour les quarts de finale pour la première fois de leur histoire. Et dire que les Guinéens n'avaient besoin que d'un nul 0-0. Les Guinéens qui ont fait la course en tête puisqu'ils ont mené 1-0 puis 2-1, mais ils se sont montrés fébriles face à cette équipe sud-africaine qui rejoint le Wydad de Casablanca, un Wydad qui termine en roue libre après sa victoire en mode gestion face à la formation angolaise de Petro Atlético 2-0. Un Wydad, dorénavant considéré comme un des principaux favoris pour le sacre final.
Amédine, c'est le Mouloudia d'Alger qui sauve le ticket du groupe D, malgré la victoire du Zamalek devant les Sénégalais de Tanguet.
Oui, Élysée, le Zamalek d'Égypte, malgré sa large victoire sur Tanguet FC 4-1, est éliminé de la Ligue africaine des champions parce que tout simplement, les vice-champions d'Afrique n'avaient plus leur destin entre les pieds. Il fallait d'abord gagner, attendre l'autre résultat entre l'Espérance de Tunis et le Mouloudia d'Algérie. Et comme cette confrontation a été sanctionnée par un nul qui arrange les 2 équipes qui filent en quart de finale, donc le Zamalek est finalement éliminé avec beaucoup de regrets, hein, il faut le dire. Quant aux Sénégalais de Tanguet FC, ils terminent leur première campagne à la dernière place du groupe D avec un bilan très très négatif, une victoire, un nul et 4 défaites. Donc ils sont derniers de ce pool Élysée.
Le dernier ticket pour les quarts de finale a été obtenu par les Algériens du CR Belouizdad, vainqueur 2-0 de Mamelodi Sundowns. On revient vers vous, Valdo. Pour l'honneur, la SV Club et le TP Mazembe terminent par une victoire.
Une victoire pour l'honneur, vous dites, Élisée, mais c'est face au club de quel pays? Le Soudan n'est pas l'élite du football africain, quoique ça reste des victoires, mais elles auraient eu une plus-value si seulement si c'était face aux autres adversaires de leur groupe respectif. Lorsque vous ne gagnez